trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple. Donc nous avons, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit, mais l'idée c'est quand même de dire c'est quand même incroyable que les Philistins ennemis de toujours du peuple d'Israël aient trouvé de quelque manière que ce soit, parce qu'on ne sait pas comment, mais ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que les Israélites ne puissent plus avoir l'art de la forge. Et donc, ils ont été, dans cette histoire-là, complètement dépendants du monopole des Philistins, c'est-à-dire de leurs ennemis de toujours. On trouve ça tellement aberrant et on se dit mais comment est-ce que c'est possible? Et si on le transpose dans la vie de l'Église, on entend par exemple l'Esprit Saint dire à une Église « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Comment cette Église-là est arrivée à abandonner, parce que le terme est fort, c'est elle consciencieusement, ou pas, j'en sais rien, mais c'est elle qui a abandonné l'amour pour le Seigneur, et on s'était posé la question, par quoi l'amour du Seigneur avait-il remplacé? Voilà, donc on a eu déjà trois exhortations sur le sujet. À chaque fois, je ne sais pas combien, si on va aller plus loin, mais voyons pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose la question sur la prière, par exemple. En fait, on essaye de voir quelles armes l'Église a abandonnées entre les mains de l'ennemi. Parce qu'au jour du combat, on risque d'en être dépourvu. Alors, il y a un texte, c'est plus facile si tu passes, merci. J'ai pris cet exemple-là parce que je trouve qu'il est chouette. Les Amalécites vinrent combattre Israël, la Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quand Moïse et Aaron et Hur montèrent, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre et qu'ils placèrent sous lui. Ils s'assirent dessus, Aaron et Hur tenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne. » Il faut s'en souvenir. Et le fait de l'écrire dans le livre nous permet à nous aujourd'hui de le lire et de nous laisser enseigner par ce récit. Je ne suis pas sûr de vouloir détailler le texte, encore que... De notre vie de prière personnelle et communautaire dépend les victoires. Ça paraît être logique, mais ce n'est pas si logique que ça. De notre vie de prière personnelle et communautaire dépend les victoires. Et la question qui se pose, à laquelle je ne peux répondre, c'est quelle est ta vie de prière et quelle est notre vie de prière communautaire. Je dirais même, est-ce que nous laissons, parce que c'était le cas pour la fraternité de temps en temps, enfin, on se disait, ben tiens, la fraternité, c'est l'action sociale de l'Église, alors on va envoyer les gens vers la fraternité et puis elle va se débrouiller avec eux. Comprenez ? Ça veut dire, ben, moi, l'action sociale, ça ne me regarde pas, c'est à la fraternité. Aujourd'hui, on pourrait dire la même chose pour la prière. La vie de prière, ça regarde la maison de prière. Ça ne me regarde pas. Ou le groupe d'intercession. Mais les Israélites étaient tous, les uns comme les autres, coincés par le manque de forgerons. Non seulement il n'y avait plus de forgerons, mais il n'y avait plus non plus la transmission, on le disait. Moïse seul n'y arrivait pas. Il a fallu que Aaron et Hur viennent. Et j'essaie d'imaginer, hein, ils sont là sur la colline et pendant un temps ils prennent l'un le bras d'un côté et de l'autre de Moïse. En disant, ben tiens, il faut tenir son bras. Puis finalement, les heures passant, il a fallu prendre autre chose. Est-ce que, la question là aussi qui se pose, c'est plus des questions d'ailleurs qu'autre chose, mais est-ce que... Es-tu le soutien de prière d'autres personnes ? Est-ce que tu es quelque part un Aaron, un Hur qui soutient la prière ou le ministère de quelqu'un d'autre ? Notez les questions parce que il n'est pas impossible, si vous avez le cœur sensible, que le Seigneur revienne cette semaine pour vous reposer les questions. Parce que se poser les questions sans y répondre, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne suis pas là pour être donneur de leçons, je suis là, en tout cas ce matin, pour poser les questions et vous permettre d'y répondre devant le Seigneur. Je disais, c'était long. Je ne sais pas à quelle heure ils ont commencé le matin, mais le texte nous dit que c'était jusqu'au coucher du soleil. C'est long. À un moment donné, c'est le cas de le dire, on baisse les bras. Et pourtant... Le Seigneur nous appelle à persévérer, mais je le redis encore, la persévérance tout seul, en solitaire, est parfois difficile et compliquée. Le but d'un groupe de maison, d'une église de maison, de l'église du Colombier, etc., le but c'est de pouvoir nous encourager, nous fortifier les uns et les autres, ensemble. Donc ce fut long. Qui n'a pas souhaité que sa prière puisse être tellement efficace qu'elle est exaucée en un clin d'œil ? Mais quand ça dure, quand il faut persévérer dans la prière durant des mois, des années, des fois... Et le Seigneur nous dit, au travers de ce texte, mais persévère, parce que de la persévérance dans la prière dépend la victoire totale. ça aurait été ballot que vers 19h, Moïse dise quand même ras-le-bol, on arrête. Il a fallu aller jusqu'au bout. Il a fallu il a fallu réfléchir pour savoir pourquoi tantôt c'était Josué qui gagnait et tantôt Amalek. Il a fallu analyser les choses. Il a fallu dire, mais comment se fait-il ? Et au bout d'un moment, je ne sais pas combien de temps, le texte ne nous le dit pas, mais au bout d'un moment, ils se sont dit, mais tiens, Moïse, écoute ton père quand tu arrêtes de lever les bras au ciel. Ah bon, t'es sûr ? Oui, allez, on essaye. Allez, baisse les bras. Et puis, Josué était en difficulté. Lève les bras. Ah, Josué reprenait du terrain. Baisse les bras. Puis, je sais pas, 4-5 fois peut-être. Ah oui, ben c'est vraiment ça, quoi. On n'y pense pas. Je vous dis ça parce que nous, chrétiens, j'allais dire évangéliques, on compte trop sur... On compte trop. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on compte presque uniquement sur le Saint-Esprit pour qu'il conduise et dirige nos vies, alors que ce texte nous dit ou nous parle d'analyse. Il faut analyser les choses. Je parlais tout à l'heure de l'analyse que nous prépare Jean Didier par rapport aux paroles prophétiques reçues. On va ensemble peut-être, je ne sais pas comment, on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait en faire, mais peut-être qu'ensemble nous allons réfléchir et décider de ce que nous allons faire par rapport à ce qui a été dit, annoncé, prophétisé, pour savoir si cette parole prophétique une précise est finie ou pas, parce que c'est une des questions qui m'a été posée par Justine, qui est un autre ministère prophétique qui vient donc au mois de novembre. Est-ce que la parole prophétique dont tu me parles, est-ce que pour vous elle est passée ou est-ce qu'elle est encore en cours ? Ah, écoute, rien que de poser la question, ça va nous obliger à nous la poser. Est-ce que nous pouvons imaginer de réfléchir avec le Saint-Esprit et de prendre les décisions ensemble ? C'est le verset d'après, je crois. C'est pas grave. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de faire telle et telle chose, dit un texte des Actes. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. J'aime bien parce que ça veut dire qu'entre l'Esprit Saint et nous, il y a, ou il devrait, en tout cas là, dans les Actes, il y avait un vrai partenariat. Ils étaient ensemble, le peuple et l'Esprit Saint, pour décider les choses. Je trouve ça relativement pertinent. Là où on dit « Seigneur, conduis-nous, dirige-nous », etc. Oui, oui, mais quelle est notre part de responsabilité dans le fait d'avancer, de marcher, de vivre la foi ? Il le faut. C'était pas vraiment une réflexion, mais je repense au témoignage de Rouli qui disait quand c'était chaotique, Tout le monde me disait, mais vaut mieux partir dans une autre église, être sûr que... parce que pour l'animation des enfants, étant donné qu'au Colombier, il y en a plus, ça, c'est compliqué. Et le Seigneur lui avait dit, ben non, je veux que tu restes là. Et puis... elle nous a partagé ça il y a quelques mois. Tout d'un coup, derrière les panneaux, elle a entendu les gamins et tout d'un coup, l'esprit qui lui rappelle qu'il fallait rester là parce que le Seigneur allait s'occuper des enfants. Le Saint-Esprit fait avec nous. Nous faisons avec le Saint-Esprit. C'est un partenariat. Acte 15, 28. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de procéder de telle manière. Donc une des questions, une autre question à se poser, c'est au travers de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Colombier, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Qu'est-ce qu'il nous dit au travers du vécu d'aujourd'hui? Est-ce que nous pourrions prendre du temps, pas aujourd'hui, hein, mais... du temps et de la réflexion sur ce qui est en train de se passer. Je me rappelle de... Je trouvais ça pertinent pour ceux qui se souviennent de Myriam. On ne peut pas l'oublier si on la connaît. Une étudiante. Elle est restée là un an. Elle est revenue après, mais elle est restée là un an. Et alors que je l'emmenais à la gare ou je ne sais où, en lui disant au revoir dans la voiture, je lui dis, dis-moi, comment est-ce que tu perçois notre communauté? Donc c'était, elle est restée dans l'année scolaire 2016-2017. Et j'ai trouvé que c'était pertinent, enfin pertinent, c'était sympa, en tout cas, mais c'était réfléchi. Quand je suis arrivé, l'église était en dépression. Ce n'est plus le cas alors que je suis en train de partir, parce que l'atmosphère de l'église a complètement changé. J'ai trouvé ça pertinent, non pas à cause de, non pas seulement, on va dire, à cause de ce qu'elle disait, parce que c'était encourageant, mais je trouvais que c'était, l'analyse était pertinente. Je n'aurais pas dit les choses de cette manière-là, mais elle avait, je trouve, les mots justes. Elle avait analysé la manière, l'atmosphère de la communauté et elle en avait déduit. La dépression et le changement. Une autre arme, c'est Josaphat qui dit au peuple, écoutez-moi, faites confiance en l'Éternel votre Dieu, vous serez invulnérables. Waouh, c'est fort, hein ? Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Puis, s'étant concerté avec le peuple, là encore, il y a une espèce de concertation, puis s'étant concerté avec le peuple, il plaça en tête l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes, en chantant « Louez l'Éternel, car son amour dure à toujours ». Et au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites, etc. La concertation, c'était est-ce que ça vous semble judicieux de mettre les chanteurs devant, en première ligne? Alors peut-être que certains en armes disaient « ouais, ouais, parce que c'est eux qui vont se faire dégommer le premier ». Mais Josaphat, apparemment, était plus spirituel que ça, quoi. Cette arme-là, c'est l'arme de la louange, c'est l'arme de l'adoration. La maison de prière serait certainement plus qualifiée que moi pour en parler, donc je ne vais pas en parler énormément, mais encore une fois, nous ne pouvons pas nous décharger sur la maison de prière sous prétexte que, entre guillemets, ce sont des spécialistes. La louange et l'adoration, c'est l'affaire de tous, dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre vie communautaire. Ça ne sert à rien d'avoir 2, 3 personnes, 4 personnes ici à chanter, à faire du bruit pour Jésus, s'il n'y a aucune réponse de l'Église. En fait, ceux qui sont là, ils sont là pour nous entraîner, pour nous amener dans la louange et l'adoration. Et c'est à nous, j'allais dire, ici, sur nos chaises ou debout, c'est à nous d'entrer d'entrer dans la louange et dans l'adoration. C'est pas à eux de le faire. Eux, ils sont là pour nous entraîner, mais seulement pour nous entraîner. Si l'Église ne réagit pas, c'est que le but, le bien fondé de ceux qui nous inspirent dans la louange et l'adoration, c'est il y a un loupé, quoi. Comprenez ? Voilà, c'est loupé. Si on réagit pas, c'est loupé. Le but n'est pas atteint, parce que le but, c'est que d'un seul cœur, les gens dans l'assemblée et ceux qui sont sur l'estrade soient d'un seul cœur, d'un cœur unique à louer et à glorifier le Seigneur. Alors j'entends bien. J'entends bien, j'ai entendu une fois quelqu'un dire, mais quand je viens à l'église, j'ai l'impression d'être de venir à un concert. C'est comme si j'entendais quelqu'un chanter, mais quand la personne me disait ça, c'est qu'elle n'arrivait pas à entrer dans la louange et n'y prenait pas part. C'est sans critique, hein. Il arrive, selon l'état d'âme dans lequel nous sommes, que nous sommes, j'allais dire, plus ou moins enclins à entrer dans la louange du fait de nos problèmes, de nos difficultés ou d'autres choses. Mais le but, quand même, c'est que la louange et l'adoration deviennent une arme. Et une arme première. Dans 2 Rois, je ne sais pas si je l'ai mis sur le PowerPoint, ouais. Dans 2 Rois 3, il y a encore une histoire de guerre. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Ils se levèrent de bon matin, les ennemis, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux des eaux rouges comme du sang. En fait, ils se sont trompés. Ils ont dit « Waouh, il y a du sang !» Donc, ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Le texte est plus long, mais vous pourrez le lire chez vous. Au moment de l'offrande, alors, il ne s'agit pas de l'offrande financière. Il ne passait pas les corbeilles. Hein. C'était l'offrande de l'agneau immolé. Et au moment de cette offrande de l'agneau immolé, pour rendre grâce et gloire à Dieu, le Seigneur s'est manifesté. Miraculeusement. Voilà, je ne reviendrai pas sur les armes dont nous a parlé Étienne, entre autres les dons spirituels. Mais je voudrais juste souligner une phrase qu'il a dite. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, il disait que maintenant, dans les hôpitaux, il faisait appel à des rebouteux pour agir sur les personnes, sur les faiseurs de feu, ou je ne sais plus comment on dit, voilà, pour que les gens qui sont brûlés ne soient plus brûlés, et donc utilisent le magnétisme, etc. Et Étienne disait, à juste titre, mais ce sont les disciples de Jésus et non les rebouteux qui devraient être appelés pour prier pour les gens. Moi, quand j'entends ça, je dis oui, Seigneur, et en même temps, je dis quelle souffrance de ne pas pouvoir le vivre. Quelle frustration de ne pas pouvoir le vivre. Mais j'en dirai pas plus. De Corinthiens. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tous ceux qui lui résistent. Et nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Les armes que le Seigneur veut mettre à notre disposition, qu'il met à notre disposition, ne sont pas des armes humaines, mais elles sont spirituelles. Et c'est spirituellement qu'il nous faut nous en emparer et combattre. Bien sûr, on peut ajouter, je ne l'ai pas mis, mais Éphésiens, chapitre 6, prenez ou endossez toutes les armes que le Seigneur vous donne, hein, le casque du salut, la ceinture, les chaussures, etc. Je disais dimanche dernier au Sable d'Olonne que j'étais souvent déconcerté lorsqu'après une prédication sur les armes d'Éphésiens, là, quand j'étais plus jeune, j'entendais il y avait la prédication et puis il y avait un temps de prière après. Et à chaque fois, il y avait des frères et sœurs qui disaient « Ah Seigneur, donne-nous les armes spirituelles ». Alors j'étais déconcerté en disant « Mais ce sont des feignants quoi ». Il y a marqué « Prenez les armes, endossez les armes ». Et on ne va pas demander encore au Seigneur de nous habiller quoi. Et elles sont là, c'est à nous de les prendre. Je trouve ça terrible parce que alors je suis presque sûr que Dieu est frustré quoi, en disant « Mais punaise, c'est là quoi, je te demande de les prendre toi-même. Endosse, prends, empare-toi des armes qui sont à ta disposition et puis vas-y quoi. » C'est aux Éphésiens, sauf erreur, que le Seigneur dit « Pourquoi as-tu abandonné le premier amour ? Est-ce que nous avons abandonné les armes comme nous avons abandonné le premier amour ?» Qu'avons-nous abandonné ? Qu'avons-nous laissé ? Il y a au cours des siècles des choses que nous avons laissées. Soit parce que, enfin, je ne peux pas dire soit parce que j'en sais rien, les raisons, je n'ai pas, fait une étude analytique là-dessus, mais certains ont abandonné le fait de prier pour les gens qui sont malades simplement parce que ça ne fonctionnait pas. En disant, ben, finalement, c'est plus pour aujourd'hui, mais le Seigneur nous dit, je ne te demande pas d'être efficace, je te demande d'obéir. Et l'obéissance, c'est prie pour ceux qui sont malades. Les résultats m'appartiennent, mais toi, continue. Et tu continues, et s'il y en a 2000, 3000, 5000 qui ne sont pas guéris, peut-être que 5001, ça commencera. Nous avons abandonné. Qu'avons-nous abandonné? Qu'avons-nous à retrouver? Quelle est notre aspiration? Ben, Seigneur, donne-nous de vivre ce que tu veux que nous vivions. Et effectivement, quand on va en reparler ces semaines, mais quand j'entends des personnes dire c'était mieux avant au Colombier, l'esprit est un esprit de vie qui est créatif, et j'espère qu'il sera créatif tout le temps. Avec des choses, quand je dis nouvelles, ce n'est pas original forcément. C'est qu'il faut aller dans le sens où souffle le vent. On ne peut pas juste dire, ma pensée c'est celle-ci, je reste coincé, immuable sur qui je suis ou sur ce que je pense. Notre vie, les uns et les autres, a changé depuis des années. Nous n'avons plus la même manière de vivre notre foi qu'il y a 10 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que le Seigneur nous fait avancer. Et l'Église, avec un grand E, doit avancer. On a devant nous des vrais défis de société auxquels le Seigneur souhaite que nous soyons là présents. Et on ne peut pas, avec ce que nous sommes aujourd'hui, dire « ça ira ». Parce que nous ne sommes pas prêts. Je vous le dis, moi. Nous ne sommes pas prêts pour les défis de demain. Pas encore. Prêts. Pour conclure, un verset que j'ai déjà apporté. « Loué soit l'Éternel ». Lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains au combat, qui prépare mes poings, mes doigts pour la bataille. Dans une autre version, béni soit l'Éternel mon rocher qui a exercé mes mains au combat, mes doigts à l'art de la guerre. L'initiateur de mes mains à la bataille, de mes doigts à la guerre, c'est le Seigneur. Enfin, voilà, c'est... Faut-il encore vouloir être formé et puis aller au combat? Pour avoir été aumônier à l'armée, je voyais les gens s'entraîner. Alors pas au tir de ceci ou cela, hein, parce que j'y allais pas, mais on ne peut pas partir à la guerre sans avoir une formation et sans être préparé. Et il nous faut un entraînement. On ne va pas à la guerre contre les puissances démoniaques juste parce que on veut y aller, quoi. Il nous faut être préparé. Il nous faut un entraînement. Je ne sais pas qui a dit cette parole. Que je fais mienne parfois. Seigneur, j'en ai marre de ne pas œuvrer plus avec le ciel. Je me demande si c'est pas Étienne qui nous a dit ça. Seigneur, j'en ai marre de ne pas œuvrer plus avec le ciel. Il n'y avait plus de forgerons en Israël. Il n'y avait plus d'armes. Les puissances ennemies avaient le monopole. Et si on appelle les radiesthésistes au chevet des malades, c'est qu'ils ont pris le monopole. Nous n'avons plus le monopole. Nous l'avons perdu. Ou peut-être nous l'avons abandonné. Parce que c'est plus simple de rester dans une vie de confort que dans une vie d'aventure. Ça nous coûte de devoir aller, de devoir nous préparer au combat et à la bataille. C'est pas drôle, c'est pas marrant, c'est fastidieux parfois. Et donc, c'est le cas de le dire, je répète, hein, on baisse les bras de la prière, de la volonté, en disant je laisse tomber, trop compliqué, trop dur, trop long. Et le Seigneur nous interpelle peut-être ce matin en disant mais je voudrais que tu redeviens un soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires du monde, dit Paul à Timothée, mais qui va et qui combat le bon combat. Une fois encore, et je termine là-dessus, je ne suis pas donneur de leçons. Je voudrais juste relever que nous sommes à un carrefour de notre vie communautaire, mais que nous sommes aussi à un carrefour de la vie sociale. Rappelez-vous de ce que le chef du cabinet du maire m'a dit concernant les besoins de prière de cette ville. Nous sommes à un carrefour. Et je crois que dans ce carrefour, le Seigneur nous attend. Il ne veut pas seulement faire des miracles en disant « Allez, je te fais un miracle. » Il dit « Implique-toi. » Parce que c'est dans la mesure de ton implication dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans le combat, dans le témoignage, dans la prière pour les guérisons, les délivrances, etc., que je vais pouvoir me manifester. Mais engage-toi sur un plan individuel et sur un plan communautaire. Avons-nous toutes les armes ? Ben non. Les voulons-nous ? Certainement. Faisons-nous quelque chose pour les réclamer ? Ben j'en sais rien. En tout cas, nous en avons besoin de ces armes et nous avons besoin de nous exercer. Je répète, continue à prier pour les malades jusqu'à ce qu'ils guérissent. C'est ça, s'exercer. S'exercer, c'est de continuer même quand il y a des échecs. Je disais il y a 15 jours à l'église de Vannes à un jeune homme, mais... T'as arrêté de prier pour les gens qui sont malades parce que tu étais en échec et tu disais mais si je continue à prier pour les malades et qu'ils ne sont pas guéris, c'est la réputation de Dieu qui va être malmenée. Et le Seigneur lui disait, t'occupe pas de ma réputation, je sais me débrouiller tout seul. Occupe-toi de prier pour les gens qui sont malades. Seigneur, nous sommes là devant toi, individuellement et communautairement. Et ah, je ne sais pas ce qu'il en est pour mes frères et sœurs, mais cet enseignement me fait souffrir personnellement parce que je vois que moi-même, je ne suis pas à la hauteur. que moi-même je ne m'exerce pas comme il le faudrait, que trop souvent je baisse les bras avant que la victoire ne soit là. À titre personnel, je t'en demande pardon, Seigneur. Et je te demande pardon au nom de notre communauté. Aide-nous. Aide-nous, on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin que tu agisses par l'Esprit Saint. Réveille-nous quelque part. Sors-nous de notre confort pour que nous puissions vivre avec toi dans ce que toi tu veux, nous faire vivre comme partenariat pour la société dans laquelle tu nous appelles. Nous ne sommes pas ici pour l'Église, nous sommes ici pour la société. Nous sommes ici pour nous former, pour nous encourager mutuellement, mais pas pour nous faire du bien à l'intérieur, pour que nous puissions vivre des choses dans la société dans laquelle tu nous appelles. Aide-nous à nous exercer dans le combat et dans la bataille. Au nom de Christ. Amen. On va terminer par un chant. Donc, il est l'admis. Je propose qu'à moins le quart, on...